Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Il est 8h34, Rachida Dati est avec nous. Rachida Dati, bonjour.
Bonjour.
Merci. Votre liste au premier tour des municipales à Paris a obtenu 22,7% le 15 mars, contre 29,3% pour Anne Hidalgo et 17,7% pour Agnès Buzyn. Rachida Dati, est-il vrai que vous avez eu plusieurs échanges téléphoniques avec Emmanuel Macron ces dernières semaines ?
Alors, Monsieur Bourdin, j'ai vu effectivement le petit papier.
Ouais. C'est vrai ou faux ?
Non, mais je veux vous dire la réalité des choses, parce qu'au bout d'un moment...
Oui, il vaut mieux dire la réalité.
Bien sûr, mais est-ce qu'une seule fois vous m'avez prise en défaut sur des choses, j'ai fait des interviews avec vous depuis très longtemps.
C'est vrai.
Et donc, je n'ai jamais été prise en défaut sur soit une trahison, soit un mensonge politique. À un moment donné, il faut dire les choses. Emmanuel Macron, je le connais depuis longtemps. Comme vous le savez, Jacques Attali, pour lequel j'ai travaillé à la Bird à Londres, quand il a eu la commission Attali lorsque j'étais garde des Sceaux, Emmanuel Macron faisait partie de cette commission.
Oui.
Et ensuite, quand il a travaillé à l'Élysée, il était très proche, puisqu'il doit beaucoup à Jean-Pierre Jouyet, qui est un ami intime. Et Jean-Pierre Jouyet, qui effectivement un ami de longue date, pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui est un grand commis de l'État, un grand serviteur de l'État. Et donc j'ai connu effectivement très bien Emmanuel Macron aussi par le biais de Jean-Pierre Jouyet. Et d'ailleurs, quand il était ministre de l'économie, on a parlé beaucoup, vous savez sur quel sujet ?
Non.
La lutte contre la radicalisation, qui était un sujet, avant même qu'il soit candidat à la présidentielle. La lutte contre les inégalités à l'école. Et d'ailleurs, moi je lui avais dit, et c'est parce qu'il ne connaissait pas cet outil, notamment des PMI, la protection maternelle et infantile, et je lui avais dit, la lutte contre les inégalités à l'école, ça commence depuis la crèche, depuis l'école maternelle et l'école primaire. Et à l'époque, la gauche avait supprimé les études dirigées, les internats d'excellence et les bourses au mérite. Et je me souviens, quand il était donc dans le gouvernement de François Hollande, je lui avais dit, Emmanuel, ce sont des erreurs. Pourquoi ? Parce que c'est-à-dire que nous, c'est de donner plus à ceux qui ont moins sur la ligne de départ. Mmh. Et donc, on a toujours eu ces échanges de cette nature depuis longtemps. On parle politique, on parle de la France, et même, vous savez, les manifestations qui existent aujourd'hui.
Oui.
Voilà. Et donc,
je vais y revenir,
sur la campagne municipale, bien sûr qu'on en a parlé, mais parce que moi, j'étais.
Ces dernières semaines, là.
Non, mais c'est pas.
Oui, non, mais si.
On a échangé.
Vous avez parlé de la stratégie adoptée à Paris.
Non, parce que.
À aucun moment.
Non, c'est pas une stratégie, Monsieur Bourdin.
Ah.
On a parlé de politique parce qu'effectivement, je vais vous dire, à l'époque, quand M. Griveaux était candidat, beaucoup, vous savez, nous on est parti de 8%. 8% à Paris. Et donc, personne n'avait pu imaginer... Non, mais attends, je vous explique pourquoi il faut que vous ayez... Parce que c'est trop facile de dire... Si, c'est facile parce
Rachida
qu'on dit...
Dati. Moi, je veux simplement savoir...
Et à l'époque, on m'avait demandé, y compris dans ma famille politique, de ne pas porter l'étiquette LR à Paris. Moi, je suis convaincue que la droite existe en France et elle existe à Paris. Mmh. Et si, effectivement, on finit avec des mauvais scores, c'est que peut-être on n'est pas assez à l'écoute, on n'est pas assez clair sur nos convictions et nos engagements.
Revenons. Donc, bien. Revenons. Alors, vous avez parlé, est-ce que ces derniers temps, pendant le confinement, après le premier tour, vous avez parlé...
Non, mais ça, je n'ai pas à vous répondre là-dessus, Monsieur Bourdin.
Mais c'est vrai ou pas ? Vous avez eu des échanges ou pas ?
Mais oui. Non, mais moi, j'ai des échanges depuis toujours.
Bon, donc vous en avez eu.
Non, mais qu'on soit au clair, on n'a pas
Vous avez discuté d'alliance en vue du second tour.
Faux. Voilà.
C'est faux ?
Faux.
Vous n'avez pas parlé d'alliance ?
Faux.
Vous avez parlé de stratégie adoptée.
On n'a pas du tout parlé de la stratégie municipale à Paris.
Il paraît que François Bayrou aurait joué les entremetteurs
aussi. Ah non, pas du tout, François Bayrou. Alors, pareil, François Bayrou, comment l'ai-je connu ? Je l'ai connu par Simone Veil, au moment où il était ministre de l'Éducation nationale et qu'il était en difficulté, notamment pour la gestion. C'était le début des foulards à l'école, avec des problèmes dans de nombreuses écoles. Simone Veil m'a demandé de pouvoir travailler pour lui dans son cabinet sur ces sujets. Et donc, nous nous connaissons avec Marielle de Sernez et François Bayrou depuis cette époque. Et nous sommes amis.
Bien. Voilà. Alors, Agnès Buzyn était là hier. Je ne sais pas si vous l'avez regardée ou écoutée hier matin.
J'ai écouté.
Elle était là. Elle est candidate. Donc, est-ce que vous pensez qu'elle est candidate pour son honneur personnel ?
Elle ne devait pas revenir dans cette campagne municipale.
À sa place, vous ne seriez pas revenu. Vous croyez avec votre caractère ?
Mais je vais vous dire, c'est toujours facile de dire à votre place je fais.
Oui.
Je veux simplement le commentaire que je fais, qui est un commentaire. Elle ne devait pas revenir dans cette campagne. De toute façon, en plus pour quelqu'un qui est candidat qui dit j'ai hésité mais finalement ça donne pas envie, hein. surtout pas un combat pour Paris. Parce que l'enjeu de cette élection, c'est quoi? C'est finalement, est-ce qu'on en veut encore? Est-ce qu'on veut 6 ans de plus à Hidalgo? L'enjeu, il est simple. Voilà, la campagne municipale à Paris, voulez-vous 6 ans de plus à Hidalgo? Est-ce que vous voulez 6 ans de plus d'un Paris dégradé et d'un Paris qui décline? Est-ce qu'on veut ça ou pas? Est-ce qu'on veut continuer sur un Paris insécurisé, un Paris très sale, un Paris dégradé, sans vision, sans ambition? Un Paris qui décline, un Paris finalement confiné à vie, un Paris qui se
prépare. Agnès Buzyn avoir refusé tout accord avec vous.
Mais...
Alors, pas d'alliance d'appareil avec un parti, a-t-elle
mais
dit.
Mais non, mais moi je l'ai dit bien avant eux. Et moi, lors des débats avec Mme Buzyn, on va la mettre face à ces contradictions. Souhaite-t-elle revenir? Non. Elle est revenue parce qu'il y a une commission d'enquête parlementaire.
Pour ça, vous pensez?
Parce que, si vous voulez, elle pense que la campagne va lui servir de justification.
Parce qu'elle avait envie de se battre, de retrouver son honneur, par orgueil, par je ne sais pas.
Pour un responsable politique, revenir pour son honneur et son orgueil uniquement quand on est candidat pour une municipale comme une ville comme Paris. Monsieur Bourdin, vous n'avez pas été frappé hier, pas un mot pour les Parisiens, pas un mot pour le personnel soignant, pas un mot pour les victimes, pas un mot pour les malades, pas un mot pour effectivement de compassion, d'empathie. Elle n'était que sur elle-même. Moi, je suis choquée quand elle dit « je suis très heureuse de pouvoir m'expliquer ». Vous l'avez reprise d'ailleurs sur ce terme. Nous, on n'est pas heureux. Quand je rencontre les familles atteintes du Covid, quand je rencontre des personnels soignants qui ont été à genoux, à terre, en étant en première ligne. Elle a dit, je suis très heureuse, le système sanitaire a tenu le coup. Grâce, a-t-elle dit, je suis la première ministre à avoir fait autant pour l'hôpital. Le président de la République lui-même a dit que les réformes qu'il a portées étaient des erreurs. Mais le système sanitaire, et vous avez des médecins sur vos plateaux régulièrement, demandez-leur comment ils ont tenu, demandez-leur comment ils ont fait face. Ils ont fait face parce qu'ils n'ont respecté aucune norme, aucune contrainte qui leur avait été imposée, y compris quand il y a eu des diminutions de lits en réanimation. Ils ont rouvert des lits sans demander l'autorisation parce qu'il y avait une question de vie et de survie, pour ne pas dire une question de mort. Et donc aujourd'hui, moi, je trouve un peu indécent de ne pas avoir un mot pour effectivement l'ensemble de ces victimes, pour avoir un mot pour les Parisiens. Parce que pendant cette crise sanitaire, on a été aux côtés des personnes âgées, des personnes vulnérables, des personnes fragiles, mais aussi auprès des familles qui, pour certaines, n'ont même pas pu être aux côtés de certaines de leurs parents pour les accompagner dans leur dernier voyage. Et ben moi, je vais vous dire, c'est un peu indécent ce que j'ai entendu hier.
Bien, Rachida Dati, pas d'accord avec La République En Marche. Non. On est bien d'accord, sauf dans le 5e arrondissement.
Non, parce que...
Alors c'est quoi cette histoire du 5e?
Le 5e arrondissement...
ne comprend rien.
Non, mais alors moi, je vais vous le dire.
Dites-moi, parce que...
En tous les cas, le
maire sortant, Florence Berthoux, avait l'étiquette La République En Marche, et voilà que vous alliez avec elle.
Alors,
oui,
je vous explique.
Vous êtes allié avec elle.
Je vous explique, Monsieur Bourdin.
Oui, allez-y.
On peut me reprocher plein de choses. Moi, on ne peut pas me reprocher le manque de clarté. J'ai toujours été dans la clarté, dans mes convictions, dans mes engagements, parce que ceux comme M. Guérini, qui dit, comme Mme Buzyn, qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Mais quelles sont mes valeurs? Vous connaissez mon parcours républicain, mais on devrait être très content que des parcours comme les miens, en étant partie d'où je suis partie, puissent arriver à une plus haute responsabilité. Quelles sont mes valeurs? La trahison comme M. Guérini? Le mépris comme M. Guérini? L'arrogance comme Mme Buzyn? Non, ce ne sont pas mes valeurs. Ça, c'est vrai, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et donc, de la clarté.
De cette alliance.
De la clarté.
Vous êtes alliés. Non,
non, alors... on n'est pas alliés.
Bon,
et c'est vrai que La République En Marche, Madame Buzyn elle-même, et jusque très tard, on s'est parlé au téléphone. Elle souhaitait que je sauve, je prends les termes, Madame Burkly et Madame Berthoux. Je vous le dis, et elle ne peut pas le démentir. Je n'ai pas voulu. J'ai refusé. Et donc, en me disant, si vous les sauvez, en contrepartie, on retire des listes dans le 10e, dans le 11e, dans le 13e, on fusionne par certains endroits. Elle ne peut pas le démentir, c'est la réalité. J'ai refusé. Madame Berthoux nous a appelés plusieurs fois depuis le début. Je ne lui avais jamais parlé au téléphone. Parce que d'ailleurs, j'avais appelé Madame Buzyn pour lui dire « Je ne ferai pas d'accord parce que vous ne voulez pas revenir dans cette campagne, dans votre dos, pour ne pas que vous ayez le sentiment que je profite d'une situation. » Et Madame Berthoux, jusqu'au dernier moment, nous a effectivement tendu la main. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas REM. Aujourd'hui, elle est divers droite. Elle n'est pas République En Marche.
Oui, elle n'est pas République En Marche. Elle ne l'est plus.
Oui, elle ne l'est pas. On a eu un accord.
Non, mais...
en accord et je n'ai pas accepté de contrepartie.
Bon,
je n'ai pas
accepté. Vous avez donc un accord avec Florence Berthoud. On est bien donc elle votera
divers droite, elle votera Dati.
Elle votera Dati ?
Bien sûr. Bien sûr.
Elle bien votera sûr. Dati.
Enfin, l'accord ne peut être que là-dessus.
Pour la mairie.
Bah, bien sûr.
Bon, elle votera Dati. Et pourtant, vous avez dit de cette femme, vous avez dit beaucoup de choses.
Bien sûr.
Mais parce vous avez que dit c'est... que c'était une traître. Vous avez dit les traîtres. Il y a des gens qui trahissent sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Puis je pense que des gens qui trahissent trahiront de nouveau.
Bien sûr.
Peut-être vous trahir,
peut-être. Non peut-être. Peut-être. Ouais, mais moi, je fais la.
C'est ce que vous avez dit d'elle. Et après, vous êtes d'accord avec elle.
Bien sûr.
Parce que mais c'est ça, la politique.
Non, c'est pas ça, la politique.
C'est ça.
C'est pas la politique. Parce que je n'ai pas fait un accord avec Madame Berthoud. J'ai fait un accord de liste avec ses colistiers. Et dessus, par exemple, le numéro 2, qui est un ami de M. François Bayrou, Pierre Casanova, qui est quelqu'un de bien. Moi, j'ai fait un accord collectif. Mais ça n'est pas un accord avec l'AREM. J'y tenais absolument. Je veux de la clarté, de la cohérence. Et moi, je vais vous dire, Monsieur Bourdin, je vais plus loin que cela. Madame Hidalgo, aujourd'hui, fait campagne avec, pour un segment de Parisiens. Quand vous voyez qu'il y a moins de 160 000 Parisiens qui ont porté leur suffrage sur le nom de Madame Hidalgo, sur 2,2 millions d'habitants, c'est un vote par défaut. Et donc, moi, effectivement, je m'adresse pas à un segment de Parisiens.
Oui.
Moi, je m'adresse à tous les Parisiens.
Je vais revenir sur vous demander.
À tous ceux qui veulent qu'à Paris, ça change. Et croyez-moi, Monsieur Bourdin, et les gens ne peuvent pas en douter, si demain je suis maire de Paris, ils verront le changement immédiatement. Paris ne sera pas le Paris d'aujourd'hui.
Bien, Rachida Dati, rassemblement interdit pour des raisons sanitaires à Paris avant-hier soir à l'appel du comité de soutien à la famille d'Adama Traoré. Il y a eu des incidents à la fin du rassemblement, des interpellations. Il y avait à peu près 20 000 personnes dans cette affaire Traoré. Expertise, contre-expertise. Maintenant, on fait un parallèle avec la mort de George Floyd aux États-Unis. Non, pourquoi dans cette affaire est-ce si long pour connaître la vérité ? Vous avez été garde des Sceaux.
Moi, j'ai été garde des Sceaux et je vais vous dire, je vais même bien aller en amont.
Oui.
J'étais conseillère de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur.
Oui.
On a connu en 2005 des émeutes non-stop. Oui. En octobre, novembre.
Oui.
Mais
oui.
Sous état d'urgence. L'état d'urgence avait été déclaré. Non-stop. Avec Nicolas Sarkozy, on était sur le terrain tous les jours. Parce que quand on ne règle pas une situation, quand on laisse effectivement une fracture de la société s'amplifier, s'accentuer, à un moment donné, ça vous explose à la figure. Et certains, moi je me souviens de certains responsables politiques, à gauche notamment, en disant, moi je les avais signalés, alertés, par exemple, nous à l'époque au ministère de l'Intérieur, on sillonnait la France. Il y avait des foyers qui allaient nous exploser à la figure, juste pour vous dire. Certains disaient, non mais on s'en fiche, ça vote pas. Mais si ça vote pas, à un moment donné, ils viennent vous mettre le feu là où effectivement on n'a pas réglé les problèmes. Sur cette affaire, rappelez-vous en 2005, on a eu aussi un drame de jeunes qui sont morts dans un centrale électrique. Maître Mignard, qui n'est pas de mon bord politique, il est socialiste. Il était conseiller de François Hollande. On a eu cette affaire, effectivement, sur ces demandes. Ça a généré beaucoup de défiance.
Transformateur électrique.
Exactement.
Oui.
Beaucoup de problèmes. Attendez, beaucoup de problèmes. Avec Monsieur Mignard, Nicolas Sarkozy avait reçu les familles, on a reçu les avocats. Lorsque j'étais garde des Sceaux,
Attendez,
justement, je vais vous dire.
Oui, bah alors,
on a souhaité apaiser, on a ouvert une instruction, les partis ont eu accès au dossier, ils ont fait des demandes d'actes et on a laissé la justice faire son travail. Dans l'affaire Adama Traoré, et encore une fois, je ne connais pas tous les détails de cette affaire, tout ce que je peux vous dire. Et je suis aussi magistrat. Et j'ai été garde des Sceaux, vous avez raison.
Oui.
Dans cette affaire Adama Traoré, il faut le reconnaître, c'est que dès le départ, l'affaire a été mal emmanchée. Pardon
Par la police, la justice ?
Non, parce qu'il y a eu d'abord des déclarations du procureur. Ensuite, il y a eu des expertises dont on n'a pas eu connaissance tout de suite. Ensuite, dans les expertises, il y a eu des expertises contradictoires, pas au sens juridique du terme, au sens contradiction du terme. Des médecins renommés. Certains disaient que c'était effectivement une mort par asphyxie, d'autres ont dit que c'était lié à une pathologie, et donc tout ça a généré beaucoup d'opacité, beaucoup de défiance.
Est-ce que le plaquage ventral exercé par les policiers et gendarmes, qui est dénoncé, doit être interdit ?
Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut revoir la doctrine. Moi, je ne vais pas vous dire est-ce que ça existe. Je ne vais pas vous dire que le plaquage ventral, c'est une technique d'interpellation. De toute façon, le code de procédure pénale donne un cadre pour les actes, pour les policiers, pour les interpellations. Ensuite, c'est des pouvoirs d'appréciation. Ensuite, il peut y avoir une faute, ou ça peut aller très plus loin. Tout ce que je peux vous dire, vous savez, l'histoire des États-Unis et celle d'en France.
Vous faites un coup une comparaison.
Non, ça n'est pas la même histoire.
Ça n'est pas la même histoire.
Mais pour que ça suscite une telle émotion.
Oui.
Partout dans le monde, c'est qu'à un moment donné, il faut s'interroger. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des échanges.
Oui.
Moi, j'ai parlé à Emmanuel Macron depuis très longtemps de ce qui se passe dans nos quartiers populaires. Cette fracture, elle est profonde et depuis longtemps.
Vous pourriez pas dire... devenir ministre d'Emmanuel Macron au passage,
non, mais
comme
c'est...
ça, puisque vous avez
franchement,
tout le monde à la
alors, je vous dis.
Non, je vous dis,
oui,
c'est comme ça parce qu'on parle beaucoup de
oui.
rassemblement.
D'abord, il ne me l'a jamais proposé.
Non,
il ne l'a jamais proposé. Et oui. je vais vous dire.
Moi, vous voyez travailler
je...
avec
ah,
lui.
Ah, mais moi, je n'ai jamais rien demandé à personne, et encore moins à M.
Bon.
Macron.
Bon,
donc
d'accord.
je suis très à l'aise.
Bon.
Simplement, je l'alerte, et moi, je lui ai toujours dit des choses, y compris parfois très désagréables, sur, effectivement, des choses dont ils ne tiennent pas compte. Regardez.
Le racisme.
Oui.
Le racisme dans les forces de l'ordre, vous y croyez ou pas? Parce que.
C'est un corps,
les
d'abord,
violences
alors,
policières.
Moi, je vous
Est-ce qu'il y a du... Oui, il y a peut-être
pourquoi
un peu de racisme,
vous, d'après
comme partout
vous,
dans notre société.
Pourquoi je suis devenu magistrat, d'après vous, M. Bourdin?
Allez-y.
Et vous connaissez mon histoire.
Je connais votre histoire et votre parcours.
Et vous connaissez mon histoire familiale.
Oui, oui. oui.
Et vous connaissez
oui.
mon histoire de la
oui.
cité dans laquelle j'ai vécu.
Oui, oui.
C'est pour ça que quand M. Guérini, du haut de sa gauche strauss-kahnienne, me donne des leçons, qui se les garde et qui se les applique. Moi, je viens de très loin. Donc, si je suis devenu magistrat... C'est que j'ai compris que l'état de droit était aussi une protection.
Vous avez souffert du racisme, vous?
C'est pas, la question n'est pas moi, et ça n'est plus moi aujourd'hui.
Dans votre famille, on a souffert du racisme de
je
la police.
Je suis devenue magistrat parce que je me suis dit, notre protection, c'est l'état
oui.
de droit.
Oui.
Et donc, vous voyez, hier, en venant ici, ma sœur, j'ai une sœur qui vit à Londres. Et on discute de ça, et elle me dit, mais tu sais, Jean-Jacques Bourdin va t'interroger là-dessus, sur le racisme. Et je lui dis, écoute, tu sais, je ne peux pas répondre en disant que la France est raciste, c'est faux. Je ne peux pas dire que la police est raciste, c'est faux. Et je les défendrai toujours. Toujours, je vous le dis, qu'il y ait des dérives individuelles, c'est une chose. Ce corps est un corps extrêmement contrôlé. Et donc, elle me dit, d'accord Rachida, mais il y a une chose. Cette émotion que ça a suscité, est-ce que ça ne te renvoie pas à des choses que des gens que tu as défendus, des gens que tu as soutenus, contre lesquels on s'est battu, quand on était plus jeune, quand on habitait la Cité de la Liberté, à la Cité du Bout du Lac, à la Cité du Stade. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui te reviennent en mémoire, Rachida? Nous, on ne dira pas... Nous, on est...
Qu'est-ce qui vous revient en mémoire alors?
Et donc, j'ai défendu. Parce que j'ai défendu. C'est pour ça que quand je vous dis sur la
fracture. Qu'est-ce qui vous revient en mémoire?
Moi, je vais vous dire, c'est pas ce racisme-là dont il faut parler. Et ça n'est pas ma situation personnelle. Et donc, des choses me sont revenues en mémoire. Et ce que je veux vous dire, les Français ne sont pas racistes. Il n'y a pas de racisme d'État. Mais le racisme existe en France. Et il y a un racisme visible, celui qui est lié à l'origine ou à la couleur de peau.
Mais dites-moi, les contrôles aux faciès, il faut.
Justement. Oui. Justement, quand j'étais
quand j'étais procureur
de la République,
oui.
bien sûr que ça existe.
Il faut mettre
et donc,
fin.
Moi, j'ai donné des réquisitions. Je contrôlais. La justice doit contrôler. Parfois, on donne des réquisitions de contrôle, d'identité, sans contrôle. Mais il y a un racisme qui est encore plus pernicieux. Le racisme social, Monsieur Bourdin. La crise des gilets jaunes, c'est quoi? Effectivement, problème de pouvoir d'achat. Vous croyez pas qu'un racisme social vis-à-vis des gens, ce qu'on appelle les petites gens, qui ne sont pas petits, au contraire, et qu'il y avait effectivement des manifestations pour le pouvoir d'achat. Mais ces gens-là, on les humilie, on les considère pas, on les traite mal. Et on en a eu tant besoin pendant cette crise sanitaire. C'est pour ça que j'avais alerté aussi de ce gouvernement. Attention à l'humiliation. À la non-considération et l'arrogance. Et là, vous vous rappelez, on disait la convergence des luttes. Là, il y a une convergence des crises. Et la crise sanitaire va laisser beaucoup de traces.
Vous êtes inquiète, là?
Je suis très inquiète. La crise sanitaire va laisser beaucoup de traces. Beaucoup. Pourquoi? Beaucoup vont être au tapis avec un chômage de masse qui va se créer. Et pas forcément très en haut. Tous ces gens-là. Et toutes ces... c'est pour ça que cette mobilisation va bien au-delà que simplement une mobilisation contre le racisme. C'est bien au-delà de cela. Et quand j'ai été garde des Sceaux, j'ai pris des politiques de lutte contre le racisme, de lutte contre l'antisémitisme, de lutte contre toutes les formes de discrimination, y compris sur l'orientation sexuelle. Et vous le savez, moi, mes combats, ils sont là. Ça a été des combats de vie, mais pendant très longtemps. Et parfois, on n'échappe pas à son enfance, des combats de survie. C'est pour ça que, attention, ces combats-là, ce que l'on voit aujourd'hui, je pouvais me taire. Je pouvais vous faire une réponse très politiquement correcte parce que je suis en campagne. Je ne peux pas me taire. Aujourd'hui, c'est ce qu'il se passe. Il faut en tenir compte. Parce que beaucoup de politiques, je vous le dis, y compris ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, disent « c'est pas grave, ces gens-là ne votent pas pour nous et ils ne votent plus ». Ils ne votent plus. Et donc, c'est pas grave, on sera réélu par défaut. Et donc, avoir le pouvoir uniquement pour avoir le pouvoir, moi j'aime trop mon pays, j'aime trop la France. Et si je suis là aujourd'hui face à vous, C'est la France qui m'a permis d'être ce que je suis. C'est la France qui m'a permis d'être à votre table aujourd'hui. Alors attention de ne pas perdre définitivement ce que la France a de mieux en elle. Et donc, ce qui se passe, au-delà de l'affaire Adama Traoré, c'est un sujet d'ensemble qui concerne nos gouvernants. Et d'ailleurs, pour Paris, je vous le dis, les territoires perdus de la République, ils existent au cœur de Paris. Ça existe au cœur de Paris. Et la population dont je vous parle aujourd'hui, le nord et l'est de Paris, oui, Madame Hidalgo, s'en fiche. Les gens qui sont parqués, maltraités, dans des conditions insalubres, dans le nord et l'est de Paris, dans le parc social, ils ne votent plus. Donc elles s'en fichent. C'est pas grave, c'est une reconduction, c'est une tacite reconduction. Moi, je dis à ces Parisiens, je dis aux Français, je dis aux citoyens, mobilisez-vous. Je ne soutiendrai pas les appels à l'émeute, les appels à la violence. Nous, on s'en est sortis sans émeute, sans violence. Simplement en défendant l'état de droit. Ces mobilisations, ils veulent un état de droit. Ils veulent de la considération. Ils veulent du respect. Il faut arrêter avec l'humiliation, l'arrogance et effectivement, finalement, ce racisme social. C'est un sujet qui nous concerne tous.
Merci, Rachida Dati, d'être venue nous voir ce matin sur RMC BFM TV. Il est 8h54.
RMC, 6h-9h.
Gourdin Direct.